Quand on parle de Waterphone, il faut bien comprendre que c'est pas forcément un chemin très facile pour un certain nombre de raisons. J'ai pas l'impression qu'en France, il y ait beaucoup de Waterphone. C'est ensuite un instrument qui, même s'il a été plus ou moins standardisé par Richard Waters, son inventeur, il existe 3 ou 4 modèles différents de Waterphone, chaque instrument est réalisé à la commande et chaque instrument est unique. Et puis, c'est quand même un instrument à la géographie très particulière. Donc on a une sorte de casserole assez plate, avec un tube au milieu, et sur tout le pourtour du conteneur, on a des tiges métalliques qui se dressent avec différentes hauteurs. Et alors, le problème, c'est que comme c'est un instrument radial, pour atteindre toutes les tiges, on doit le faire tourner avec l'une des mains. Donc, même si l'instrument ne paraît pas comme ça, c'est quand même un instrument qui est assez lourd, donc c'est assez fatigant. Et on ne peut pas forcément le faire tourner non plus très rapidement. Du coup, on ne peut pas non plus jouer des mélodies de façon classique, on va dire. Voilà, donc il y a plusieurs choses qui font que l'instrument ne peut pas être exploité comme un piano, par exemple. Tout commence en fait vers la fin des années 90. Je commence à composer et un jour j'emprunte à la bibliothèque un ouvrage consacré exclusivement à la percussion. L'un de ces instruments, c'est un tout petit paragraphe avec une photo en noir et blanc de mauvaise qualité, indique Waterphone avec une description qui n'est pas franchement parlante. Et à ce moment-là, je suis très intrigué, mais on est à la fin des années 90. On n'a pas encore les smartphones, on n'a pas encore Internet, les ordinateurs. Donc sur le Waterphone, malheureusement, à ce moment-là, tout s'arrête là, je ne peux pas en savoir plus. Mais comme je suis suffisamment intéressé, je note sur un petit bout de papier le nom du Waterphone et de quelques autres instruments, en me disant que plus tard, je pourrais peut-être trouver d'autres documentations. Au tout début des années 2000, je découvre la bande originale de la musique de Matrix, la fameuse trilogie. Et dans cette partition, il y a une sonorité vraiment mais étrange, indéfinissable, et je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Alors je suis fasciné par cette sonorité-là, j'ai beau la passer en boucle, je n'arrive pas à savoir quel pourrait être l'instrument qui peut provoquer ces sons-là. C'est une sorte de dégoulinement un peu chointant, un peu métallique. Et ça en reste là pour le moment, jusqu'à ce que quelques années plus tard, je sois équipé d'un ordinateur, d'Internet, et un jour de désœuvrement, je retombe sur le petit papier, et là, bingo, je découvre qu'en fait, l'instrument qui m'avait intéressé, d'un point de vue déjà de sa description et de la photographie, et de l'autre côté, la sonorité que je n'arrivais pas à identifier, c'était en fait le même instrument.
als die Pfanne schläft, ob, dass ihr auf der richtigen Seite rausklappt. Veuillez à débarquer du bon côté.
Mes parents m'ont envoyé dans la musique du village, l'école de musique, et là, j'ai senti que j'étais très vite perdu. Je ne me sentais pas à l'aise parce que c'était très classique, très théorique. Et voilà, donc je me suis un peu distancé de cette musique. Et après, quand j'étais teenager, comme beaucoup de jeunes, j'ai pris la guitare et j'étais alors quand même content d'avoir un petit peu ce savoir que j'ai appris à l'école de musique. Et donc, je me suis de plus en plus intéressé aux sonorités qui ne sortaient pas du domaine classique ou même de notre environnement, je dirais européen ou occidental. Donc, je cherchais simplement des nouvelles sonorités. Après, je me suis intéressé pendant des années aussi au didgeridoo. Et là, je suis parti en Australie pour chercher ou trouver un petit peu la vérité de cet instrument, parce qu'on entend plein d'histoires sur cet instrument, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc je suis parti en Australie, j'ai rencontré des joueurs de didgeridoo, des aborigènes, j'ai passé du temps avec des aborigènes pour apprendre l'instrument et aussi la culture aborigène, aussi la culture de l'instrument. Donc là, c'était un tout nouveau voyage, aussi l'approche de la musique et aussi l'approche culturelle de la musique en général. Et puis, oui, je cherchais d'autres sonorités encore. C'est un ami qui m'a introduit au Waterphone, qui en avait un, et ça m'a tout de suite fasciné. Et j'avais encore la chance, Monsieur Waters, il était encore en vie. Et donc, j'avais commandé un Waterphone chez lui et je l'ai reçu, je ne sais pas, une demi-année après.
Alors, d'après l'histoire que racontait Richard Waters, dans une page qui était publiée sur son site officiel, l'instrument aurait été inventé aux alentours de 1968-69, par là, à un moment où Richard Waters s'amusait à créer des sortes de kalimbas, mais des kalimbas un peu modernes, avec des boîtes de conserve, et au lieu de souder les lames sur un seul plan, il soudait les lames sur le pourtour de la boîte de conserve, ce qui donnait un instrument en fait radial. Et à ce moment-là, il s'est mis à tester différentes configurations. Et un jour, il s'est rendu chez un ami qui a versé un peu d'eau dans la boîte de conserve. Et ils se sont amusés non plus à jouer en pinçant avec les doigts ou en jouant avec des baguettes, mais avec un archet. Et c'est ce jour-là que le premier, on va dire, prototype de Waterphone est apparu. À ce moment-là, il a compris qu'il y avait vraiment un potentiel. Il est reparti chez lui, il a expérimenté avec différents types de conteneurs, différentes configuration même dans les tiges. Et donc l'instrument, le Waterphone, était né. Après, ce qui s'est passé, ce qui a aidé à populariser, en tout cas dans le milieu de la musique de film, l'instrument, c'est qu'un percussionniste légendaire qui jouait beaucoup dans les sessions de musique de film, qui s'appelait Emil Richards, a eu vent de l'instrument, et il a invité Richard Waters à venir quelque temps chez lui, en Californie, à Los Angeles, pour présenter ses instruments à tous ses collègues compositeurs, parmi lesquels Lalo Schifrin. Et à ce moment-là, Richard Waters a réalisé qu'en une semaine, il a eu un meilleur chiffre d'affaires que dans toute l'année écoulée, parce qu'il n'était pas franchement du côté musical. Avant, il était un peu à cheval entre musique et art visuel, sculpture et voilà, différentes disciplines, on va dire. Et il s'est dit, bon, il y a quelque chose à trouver là-dedans, je pense qu'il faut que je poursuive dans cette voie-là. Donc à ce moment-là, il a continué à travailler sur le Waterphone. Et autant que je sache, c'est Lalo Schifrin qui a utilisé le Waterphone en 1971 dans deux films. alors dans un film qui n'est pas sorti en France, et un autre film qui s'appelle L'inspecteur Harry avec Clint Eastwood, dans lequel on trouve cette sonorité de waterphone caractéristique. Et à partir de là, il l'a utilisé très souvent par la suite dans ses partitions.
Généralement, on fait des concerts dans des endroits très calmes parce que souvent, on a des sonorités pas très, très fortes. Donc, il faut un espace très, très calme pour créer cet espace de sonorité. Donc, on a choisi souvent des églises. Pour moi, déjà aussi pour le waterphone, entre autres, l'acoustique, c'est comme un troisième musicien. Donc il faut l'écouter, l'acoustique, il faut réagir sur l'acoustique, il faut jouer avec l'acoustique. Si tu l'ignores, l'acoustique, tu es perdu. Donc il faut l'intégrer, il faut l'accepter aussi, jouer avec. Quand on fait des concerts comme ça, on est très proche du public. Donc dès que le public devient un petit peu nerveux, tu vois, ouh là là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc toi aussi, tu deviens nerveux. Et il faut être... Là, avec un esprit ouvert, et il faut être calme. Et si on a des préoccupations dans la tête, pour le public et aussi pour le musicien, ça ne marche pas.
Donc, après cette période-là, tout s'est un peu clarifié. La fille de Richard Waters a trouvé une personne qui a pu prendre la succession officiellement. Et donc, aujourd'hui, on a des waterphones de deuxième génération qui peuvent officiellement s'appeler waterphones et qui ont l'air de très bonne qualité et tout à fait au niveau de ce que proposait Richard Waters. Il a expliqué que si l'instrument portait son nom à cause de son nom de famille, ce serait un waterphone avec un S au milieu. Donc non, la raison pour laquelle l'instrument s'appelle waterphone, c'est simplement parce que on peut utiliser de l'eau dans l'instrument. Alors, on met qu'une toute petite quantité d'eau à l'intérieur de l'instrument, pas besoin de remplir complètement le conteneur. Ça fonctionne même d'ailleurs beaucoup mieux avec une quantité assez minimale d'eau. L'eau va venir bouger à l'intérieur quand on va faire tourner l'instrument. Et comme il y a des vitesses de transmission différentes du son dans le métal d'abord, mais aussi dans l'air à l'intérieur du conteneur et dans l'eau, on va avoir différentes résonances qui vont se créer comme ça, et ça va faire des sortes de mini inflexions, on pourrait dire, dans la sonorité de l'instrument. Donc c'est un son qui ne va pas être très stable. Le waterphone, donc, quand j'ai eu envie de travailler pour cet instrument, mais il a fallu que je le découvre, que j'expérimente dessus, que je cherche qu'est-ce que je pouvais concrètement réaliser sur l'instrument. Donc ça m'a pris pas mal de temps, parce que même si on voit des hauteurs de tige différentes, il faut savoir que c'est une physique du son assez particulière, et que sur une seule tige, on peut sortir un certain nombre de partiels de sonorités différentes. Et c'est pas toujours facile à gérer, c'est pas toujours facile de discriminer quelle hauteur précisément on va faire sortir, parce que ça dépend beaucoup de l'état de résonance à ce moment-là du conteneur. Thank you.
Régulièrement, on a des concerts, on l'appelle création instantanée. Pour moi, c'est quelque chose de différent que l'improvisation. La création instantanée, ça se crée au moment. Et l'improvisation, on improvise sur quelque chose. C'est-à-dire, on a déjà un petit repère qu'on improvise dessus. Mais ici, quand on joue, on n'a pas de repère. Ça peut être des musiciens jazz, des musiciens classiques qui sont ouverts à cet esprit pour voir qu'est-ce qui se crée à ce moment. Et là, j'utilise pour créer des ambiances souvent le waterphone. Sinon, ce que je fais encore, parfois je fais des performances que j'appelle The Silent Hour. Donc, c'est un concert de méditation. Et voilà, les gens, soit ils l'écoutent, soit ils peuvent dormir, soit ils peuvent faire des exercices de yoga. Généralement, ils amènent leur mat de yoga et ils sont libres à faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils sentent. Et là, je joue pendant une heure où j'introduis aussi le waterphone durant la performance. Je travaille aussi avec un poète, Jean Portante. Et là, régulièrement, je l'utilise lors de performances ou des lectures qu'il fait. Déjà, ils sont étonnés s'ils ne le connaissent pas. Souvent, s'ils dorment ou s'ils se reposent, ils se réveillent, ils regardent ce que vraiment c'est. Généralement, les gens sont fascinés parce que je le joue très, très prudemment lors de ces sessions. Il faut vraiment faire très attention à comment le jouer parce que ça peut virer très vite dans une autre atmosphère. Donc, quand tu le joues... D'une manière soft, ou comment dire, les gens se rappellent un petit peu les baleines, la mer. Et si tu joues un petit peu trop intensif, trop fort, ça peut souvenir les gens aux films d'horreur. Et c'est ça ce que je veux éviter lors des performances. Donc c'est quelque chose de très 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 subtil. Ça va dans des chants de baleines d'un côté et de l'autre côté, ça va dans les films d'horreur. Donc il y a des gens qui ont peur de l'instrument vraiment, donc ils ne se sentent pas à l'aise si tu le joues. Et oui, généralement, les gens l'apprécient pendant la performance. Il faut savoir durant cette heure quand le prendre, à quel moment le prendre et comment le jouer.
Alors, Richard Waters raconte que, outre les musiciens, les compositeurs qui ont utilisé le waterphone, il y a une utilisation un peu plus surprenante de l'instrument qui a eu lieu avec une personne qui travaillait, je crois, pour Greenpeace à l'époque et qui essayait de communiquer, entre guillemets, avec diverses espèces animales. Et quand il a eu connaissance de l'instrument, il a trouvé que c'était assez proche du chant des baleines et des cétacés. Du coup, il a commandé un instrument et il est parti dans la mer avec l'instrument. Alors, il l'a retourné plutôt que de jouer avec Archer. Et à une certaine distance du rivage, il s'est mis à frotter les tiges. Et en apparence, il y aurait eu une bonne réponse des cétacés, je crois, des orques, qui ont semblé apprécier l'instrument, qui l'ont entouré. Et je crois d'ailleurs qu'il existe un enregistrement et une photographie de cet événement-là. Donc voilà, l'instrument Waterphone sert aussi dans des cas de figure un peu plus étonnants.
Derrière la première porte, la mauvaise herbe pousse et le bateau souffle sa vapeur dans les nuages. Combien était-il à bord quand le pont a chaviré? Reste que d'anciens historiens devant tant de naufrages remplissent leurs manuscrits d'alphabets sympathiques. À leurs croquis, on devine les mendiants qui font la queue devant les haillons de la lumière. Derrière la deuxième porte, on ramasse les enfants. Clandestinement, s'il vous plaît.
Instrument acoustique singulier, une série documentaire de Jean-Bernard Roser avec la participation d'Alexis Saveliev et Lex Gillen. Poème de Jean Portante, musique et effets sonores de Lex Gillen, son additionnel universalsoundbank.com. Merci au Conservatoire et à la ville de Nice, Véronique Champion, Natalia Chekhovtsova et Stéphane Meige. Production ASBL soundorigine.be. Accompagné par l'atelier de création sonore radiophonique et soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.